Bonsoir à tous. Des données médicales dans le fichier des victimes d'attentats ou de manifestations. La PHP reconnaît un usage inapproprié pour certains gilets jaunes blessés. Comment fonctionne et à quoi sert ce fichier? On voit ça dès le début du journal. Des dérogations pour Notre-Dame sur les marchés publics ou le patrimoine. Elles sont dans le projet de loi pour la cathédrale présenté en Conseil des ministres. Stéphane Bern fait déjà part de ses inquiétudes. Au sommaire également ce soir, Emmanuel Macron qui peaufine son rendez-vous de demain soir. Les annonces de post-grand débat, ce sera en direct sur Inter. Julien Alaphilippe, encore le plus fort sur la flèche wallonne. La mort de la banane la plus célèbre de la chanson française, Dick Rivers, souvent très bien entouré. Vous verrez. Et dans 20 minutes, Pierre, la suite du 18-20 spécial.
Spécial Europe, le thème aujourd'hui, le dossier des migrants et cette question. Pourquoi dit-on que l'Europe est une passoire? Comment mieux protéger les frontières extérieures de l'Union européenne? Peut-on imaginer une coordination en matière de droit d'asile en Europe? Vos questions, 01 45 24 7000 et bien sûr le site de l'émission franceinter.fr.
France Inter. C'est un fichier créé après les attentats de 2015 pour mieux identifier et prendre en charge les victimes lors de grands événements. Sauf que pendant les manifestations de gilets jaunes, les hôpitaux parisiens y ont fait figurer des informations médicales dans ce CIVIC, ce système d'information pour le suivi des victimes. Bonsoir Daniel Messager.
Bonsoir.
La direction de la PHP reconnaît aujourd'hui ce qu'elle appelle un usage inapproprié.
Oui, et c'est à la suite d'informations parues dans le Canard Enchaîné que la direction des hôpitaux de Paris a enquêté et a découvert effectivement que lors de un ou deux samedis de manifestation, des données sur la nature des blessures qui n'auraient pas dû apparaître figuraient dans ce fichier. François Crémieux est le directeur général adjoint de l'APHP.
Dans certains cas, une grosse dizaine, la case correspondant aux commentaires associés à chacune des fiches a été remplie de manière inappropriée avec des informations de nature médicale. Ces informations n'auraient pas dû apparaître. Très clairement, le dispositif civique n'est pas prévu pour cela. On a d'autres outils pour le faire, notamment les dossiers médicaux des patients. Les consignes de l'assistance publique étaient ambiguës. Donc c'est à cause de nos consignes insuffisamment claires que des équipes ont fait cette erreur.
Mais que doit comporter exactement ce fichier? Réponse avec Grégory Emery. C'est l'un des responsables de la sécurité sanitaire au ministère de la Santé. Il est au micro de Clémentine Sabrier.
Le nom, le prénom, le sexe de la personne. Le champ commentaire a été mis en place pour disposer d'informations utiles dans la conduite de l'urgence, notamment savoir si le patient est accompagné par un de ses proches ou s'il y a un élément, un vêtement, un bijou qui pourra permettre de le reconnaître dans le temps. Ce casse commentaire n'a pas vocation à renseigner des informations médicales.
Alors en raison de l'inquiétude provoquée, certains manifestants ont effectivement parlé de fichage et des médecins se sont émus d'une éventuelle violation du secret professionnel. Une inspection a été diligentée par les hôpitaux de Paris et l'Agence régionale de santé. La CNIL a également été saisie par l'Ordre des médecins. Un dossier est en cours d'instruction. L'investigation pourrait prendre plusieurs semaines.
Et toujours à propos des gilets jaunes, merci Daniel Messager. Voici l'un de leurs visages, Éric Drouet, à l'origine du premier samedi de mobilisation le 17 novembre et qui a fait plusieurs fois parler de lui depuis. Bonsoir Yann Gallic.
Bonsoir.
Il annonce qu'il fait une pause, une mise en retrait de plus dans ce mouvement protéiforme.
Je suis au bout de mes forces, écrit Éric Drouet dans un message posté sur Facebook. Le chauffeur routier de Seine-et-Marne évoque les menaces et les insultes contre sa famille. Mi-mars, il avait annoncé un changement de stratégie pour relancer le mouvement des Gilets jaunes. Il voulait arrêter les manifestations du samedi en privilégiant les blocages des ports et des raffineries. Quelques jours plus tard, sa voiture était vandalisée et son domicile aspergé de peinture jaune. Celui qui avait appelé à rentrer dans l'Élysée était devenu l'une des bêtes noires du gouvernement. Également dans le viseur de la justice, Éric Drouet a déjà été condamné à une amende pour des manifestations non déclarées et il doit être à nouveau jugé en juin pour port d'armes prohibé car il avait été arrêté avec un bâton lors d'un rassemblement. Le retrait d'Éric Drouet est symptomatique en effet de ce mouvement de contestation hétéroclite à travers lequel certaines personnalités médiatiques ont émergé avant de s'éclipser, comme l'aide-soignante Ingrid Levavasseur qui a aujourd'hui déserté les cortèges. D'autres, comme Jacqueline Mourot, se sont lancés dans la politique. Restent encore Maxime Nicole, Priscilla Ludowski ou Jérôme Rodriguez, grièvement blessés à l'œil lors d'une manifestation. Mais eux aussi commencent à saturer aujourd'hui, fatigués, disent-ils, par les critiques et les pressions qu'ils subissent depuis 5 mois.
Yann Gallic, merci.
Sébastien, Notre-Dame est décidément un édifice à part.
Oui, le projet de loi sur sa reconstruction a été présenté présenté aujourd'hui en Conseil des ministres et le texte prévoit de possibles dérogations pour tenir le délai de 5 ans fixé par Emmanuel Macron. Bonsoir Isabelle Pasquier.
Bonsoir.
Des dérogations en matière de marché public et de protection du patrimoine qui suscitent déjà des réserves.
Oui, ce texte donne au gouvernement l'autorisation de prendre par ordonnance des dérogations aux règles du marché public. Par exemple, le traitement des contentieux, et l'on sait qu'en France, c'est un sport national, ces contestations qui peuvent ralentir, voire bloquer un projet qu'Emmanuel Macron veut mener au pas de course. Dérogation également en matière de préservation du patrimoine. Et là, on comprend que le gouvernement veut s'armer contre ceux qui contesteraient un projet qui ne serait pas la reconstruction à l'identique de Notre-Dame, plus précisément de sa flèche.
D'où les inquiétudes notamment du monsieur patrimoine d'Emmanuel Macron,
oui,
Stéphane Bern.
Stéphane Bern, qui craint que cette loi ne crée des précédents et qu'elle ne favorise la précipitation. Il dit également qu'il faut faire preuve de beaucoup d'humilité face aux 850 ans d'architecture de Notre-Dame. En tout cas, cette loi d'exception prouve que l'exécutif se donne les moyens pour que le nouveau visage de Notre-Dame ne soit pas forcément une copie de l'ancien et qu'il puisse avoir des traits beaucoup plus contemporains.
Un don supplémentaire est venu s'ajouter aujourd'hui au quasi milliard d'euros déjà promis, 1 100 000 000 euros versés par le monde des courses hippiques après le prix du président de la République qui s'est couru dimanche à Auteuil et qui avait été rebaptisé prix Notre-Dame de Paris. Et puis du côté de l'enquête, l'entreprise qui a monté l'échafaudage autour de la flèche de la cathédrale reconnaît que certains de ses compagnons ont fumé sur le chantier malgré l'interdiction, mais elle exclut que cela puisse avoir un lien avec l'incendie qui a ravagé la cathédrale. D'après le Canard enchaîné, 7 mégots ont été retrouvés sur le site. L'incendie, en tout cas, a obligé Emmanuel Macron à reporter l'annonce de ses conclusions d'après grand débat lundi dernier. Et le rendez-vous est donc prévu demain à 18h à l'Élysée, propos du président, puis 2 heures de conférence de presse. Bonsoir Élodie Forêt.
Bonsoir.
On devrait enfin avoir confirmation de certaines mesures qui ont fuité ces derniers jours.
Oui, le président va en effet sans doute confirmer et détailler surtout toutes ces mesures. A priori, pas de raison d'en changer la teneur car les retours sont plutôt positifs. Selon un sondage Ipsos publié aujourd'hui dans le journal Le Monde, les Français approuvent massivement ce qui a fuité dans la presse. Quelques exemples. Sur l'institutionnel, 89% seraient d'accord avec la réduction du nombre de parlementaires, 82% pour une dose significative de proportionnel dans le scrutin législatif, 77% pour l'instauration de référendums d'initiative citoyenne locaux. Même succès pour les mesures qui concernent les services publics. 88% des Français approuvent que l'on ne ferme plus d'hôpitaux ou d'écoles. 83% sont également pour une nouvelle étape de décentralisation. La mesure recueillant le moins de voix étant finalement la suppression de l'ENA. 58% pour. Des annonces en général plébiscitées donc, mais qui paradoxalement ne garantissent pas le succès de cette sortie du grand débat. Un quart seulement des Français pensent que la séquence va améliorer la situation de la France. Plus révélateur encore sur la limite de l'exercice. Quoi que dise Emmanuel Macron demain, près de 70% des Français n'en tiendront pas compte pour le vote aux élections européennes.
Élodie Forêt, cette sortie du grand débat, ce sera sur France Inter en édition spéciale à partir de 18h et jusqu'à 20h avec vous, Pierre Veille, avec les annonces donc du chef de l'État en direct, puis le décryptage de la rédaction et les différentes réactions. Soirée à suivre également sur franceinter.fr. Autre annonce du gouvernement aujourd'hui, celle de la ministre des Transports, Elisabeth Borne, qui va expérimenter les véhicules électriques autonomes. 16 projets tests répartis dans tout le pays, en zone rurale comme urbaine, pour le transport collectif ou individuel. Ces véhicules sont déjà testés près de la gare de Lyon, à Paris ou dans le quartier de la Défense. Ils le seront dès l'an prochain, notamment dans le Berry. 5 communes situées autour de Mézières-en-Brenne, près de Châteauroux, seront bientôt reliées par une navette sans conducteur. Sarah Tucherer est allée voir ce que les habitants en pensaient.
L'idée d'avoir une navette pour circuler autour de chez elle réjouit André. Ce matin, elle a pris sa voiture pour faire les 10 km qui la séparent de la pharmacie. Dans sa commune, elle raconte qu'il n'y a plus rien.
Il y a un restaurant qui est fermé, il y avait une boulangerie qui est fermée, il n'y en aura plus jamais, il n'y a plus rien. Autour de nous, les gens conduisent encore tous, mais bon, ils arrivent à 80 ans, moi j'en ai 77. Tant qu'on conduit, ça va, mais le jour où on conduira plus, oui, ce serait bien une navette.
La communauté de communes, cœur de Brenne, est isolée, un quart la relie à Châteauroux, matin et soir, mais c'est insuffisant selon la boulangère de Mézières, Émilie.
Bah oui, il y a beaucoup de personnes d'un certain âge. Du coup, c'est vrai que ça pose un souci. Bah, notamment, c'est vrai que au niveau du pain, il y en a beaucoup qui aimeraient qu'il y ait une tournée, qu'il y ait des choses qui viennent chez eux, quoi. Voilà.
Pour Sébastien Lalange, vice-président de la communauté de communes, un véhicule autonome, c'est la solution pour maintenir des transports en commun en zone rurale.
Notre problème, c'est de faire circuler peu de voyageurs sur de grandes distances. En termes de transport, c'est pas le véhicule qui coûte, c'est le personnel à l'intérieur du véhicule. Le fait de ne plus avoir de personnel à l'intérieur des véhicules doit peut-être nous permettre de maintenir du transport entre les communes.
La navette autonome devrait arriver en Braine fin 2020.
Là, il n'est pas question d'auto-écolo, mais bien de pollution. Le groupe de BTP Vinci est sous le coup d'une plainte d'une association de pêche et de protection de la nature à Nanterre pour avoir déversé des eaux pleines de résidus de béton sur les berges de la Seine. Thomas Séchier.
Oui, ces rejets, ils ont eu lieu ici, au bord de la Seine, en toute discrétion, à côté d'une centrale à béton de Vinci qui alimente le chantier du prolongement du RER E. C'est un garde-pêche qui a fait la découverte. Il a tout raconté à son collègue Damien Bouchon de l'association de pêche des Hauts-de-Seine.
Les camions étaient nettoyés et en fait le béton sale ou non utilisé était récupéré dans des cuves, mais ces cuves débordaient et débordaient jusqu'à la berge et du coup dans la Seine directement.
Ça peut pas être une erreur?
Concrètement, non. C'est du laisser aller, je pense.
Du jamais vu pour ce jeune pêcheur. D'après l'association, la pollution dure depuis des mois, avec des conséquences pour les poissons.
Là, concrètement, ça va être plutôt des zones de plages de cailloux, de plages de sable qui se sont fait recouvertes par le béton et du coup ont disparu, donc inutilisables par les poissons. Les poissons vont retrouver de la place autre part, des frayères autre part, mais c'est vrai que oui, c'est une perte importante.
D'où une plainte déposée et les aveux de Vinci qui reconnaît dans un communiqué un incident exceptionnel et involontaire et assure avoir mis fin au déversement. En attendant une enquête judiciaire, Vinci a ouvert une enquête interne et promet des sanctions si les responsables sont trouvés.
Et la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, se dit scandalisée sur Twitter. Elle demande que toute la clarté soit faite et des sanctions exemplaires. Un nouvel épisode dans l'affaire Vincent Lambert, l'ancien infirmier tétraplégique et réduit à l'état végétatif depuis 10 ans après un accident de la route. Ses parents, catholiques traditionnalistes, estiment qu'il n'est pas en fin de vie. Sa femme juge au contraire qu'il faut le laisser partir. Et pour les médecins, eh bien, il n'y a aucun espoir d'amélioration et son état se dégrade lentement davantage. Il demande l'arrêt des soins. Le Conseil d'État valide une nouvelle fois aujourd'hui cette décision. Les parents saisissent la Cour européenne des droits de l'homme.
Plusieurs centaines de personnes, Sébastien, aux obsèques de Lyra McKee à Belfast.
La journaliste tuée jeudi soir à Londonderry par un groupuscule républicain nord-irlandais qui a reconnu les faits depuis et qui s'est excusé. La journaliste de 29 ans couvrait des affrontements entre ce groupe et des policiers et sa mort a provoqué un tollé en Irlande du Nord. Plusieurs leaders politiques, dont Theresa May, avait fait le déplacement aujourd'hui. Reportage à Belfast pour Inter de Julien Lagache.
Lyra était une enfant des accords de paix, énonce le prêtre. Il rappelle que la jeune femme avait 9 ans lors de ce tournant, une page de l'histoire nord-irlandaise à laquelle la journaliste ne cessait de penser, se remémore son ami Stephen Lusty de 20 ans, son aîné.
Nous avons tous les deux grandi dans le nord de Belfast et nous avons souvent échangé sur nos souvenirs, sur ce que c'était de grandir là dans les années 70 et 2000.
Lyra McKee avait même fait de cette question un vrai sujet d'enquête journalistique. Tous soulignent que la jeune femme souhaitait voir la société nord-irlandaise enfin évoluer vers la réconciliation. Sa mort a suscité un élan d'unité nationale. C'est son héritage, mais c'est aussi un lourd tribut payé, dénonce le père Martin McGill, qu'il a bien connu.
Une question demeure aujourd'hui. Pourquoi, au nom du ciel, a-t-il fallu attendre la mort d'une jeune fille de 29 ans pour en arriver là ?
Un message adressé aux responsables politiques nord-irlandais, assis au premier rang et dont tout le monde attend désormais un geste de réconciliation dans un pays sans gouvernement depuis plus de 2 ans. Belfast, Julien Lagache, France Inter.
Et en Écosse, la première ministre Nicola Sturgeon annonçait là un second référendum sur l'indépendance avant 2021. La mort d'Abbassi Madani, le chef historique du Front islamique du Salut algérien, mort à 88 ans au Qatar. Le parti islamiste d'opposition était sur le point de remporter les élections en 92 quand il a été dissous par l'armée. Madani a ensuite soutenu le GIA avant d'appeler à la fin de la lutte armée et d'être libéré de prison. La guerre civile a fait 200 000 morts en Algérie. À peine élu, déjà en conflit avec Moscou, le nouveau président ukrainien, Volodymyr Zelensky, appelle les Occidentaux à renforcer les sanctions contre la Russie. Le Kremlin vient de décider de simplifier les procédures pour obtenir un passeport russe pour les habitants des régions séparatistes de l'Est de l'Ukraine. Le Sri Lanka, toujours sur la piste des auteurs des attaques de Pâques. 18 nouvelles arrestations ces dernières heures, près de 60 au total. Colombo reconnaît une défaillance de l'État en matière de sécurité. Le bilan des attentats revendiqués par le groupe État islamique est désormais de 359 morts et le pays s'inquiète des conséquences sur le tourisme. C'est un reportage à Colombo de Sébastien Farcy.
Ce sont deux amis et collègues conducteurs de mototaxi qui attendent des clients qui ne viennent pas devant un grand hôtel de luxe de Colombo. Tachanamuti, le bouddhiste à la figure élancée, déprime.
Il y a 249 chambres dans cet hôtel, mais on m'a dit qu'il n'y a que 9 chambres occupées. Depuis 4 jours, je n'ai eu aucun client. C'est un gros problème. Et j'ai peur que cela dure 6 mois ou 1 an avant que les touristes reviennent.
Son ami est encore plus remonté. Mohamed Faisal est musulman et il est furieux de savoir que d'autres musulmans ont détourné sa foi en tuant des gens. Cet homme de 41 ans a maintenant peur de retomber dans les heures noires de la guerre civile qui s'est terminée il y a 10 ans après 2 décennies de conflits et d'attentats.
Un jour, une bombe a explosé près du bureau du Premier ministre et je me trouvais juste à côté. À cette époque, on ne pouvait pas circuler dans les rues car on ne savait pas quand les bombes exploseraient. On ressent la même chose aujourd'hui et c'est pour cela que je réclame au gouvernement de prendre soin de notre pays.
250 000 touristes ont visité le Sri Lanka l'année dernière, soit 5 fois plus qu'il y a 10 ans à la fin de la guerre. Ce secteur représente l'un des poumons de l'économie du pays et sa crise pourrait affecter toute la population. À Colombo, Sébastien Farcy, RFI pour France Inter.
Boeing livre sa première estimation des déboires de son 737 MAX. L'immobilisation de l'avion, dont l'un des logiciels est mis en cause dans 2 catastrophes, a coûté 1 milliard de dollars depuis la mi-mars. Sans compter les indemnisations à venir aux compagnies concernées et aux familles des passagers. 346 morts au total.
Les sports, Sébastien Paour, Julian Alaphilippe est décidément en forme.
Oui, le cycliste français s'est imposé dans Milan-San Remo le mois dernier. Il décroche aujourd'hui la Flèche Wallonne en Belgique. Bonsoir Fabrice Rigobert.
Bonsoir Sébastien.
C'est sa deuxième victoire de suite au sommet du mur de Huy.
Oui, deux fois deuxième de cette course derrière l'actuel champion du monde Valverde et vainqueur l'année passée devant le coureur espagnol. Le natif de Saint-Amand-Montrond a une nouvelle fois dompté les pourcentages vertigineux du mur de Huy jusqu'à 25% pour y rester chez lui au détriment du Danois Fuglsang avec lequel il a failli gagner l'Amstel Gold Race dimanche dernier. Victoire pleine de maîtrise, presque facile, pas tant que ça.
On est vite parti, je me suis dit ça va être difficile d'aller comme ça jusqu'en haut, donc j'ai jaugé un petit peu l'écart qu'il y avait avec les mecs derrière, jusqu'au moment où il faut plus regarder derrière et il faut lutter contre la fameuse brûlure. Et honnêtement, les 100 derniers mètres, voilà, j'ai vraiment un peu buté, mais finalement j'ai réussi à le passer. C'était plus dans la tête aujourd'hui que les jambes, je pense.
Le mental pour oublier les jambes dures, pleines d'acide lactique qui vous laisse presque à l'arrêt. À 26 ans, le coureur qui a grandi à Montluçon, la ville de Roger Valkoviak, ancien vainqueur du Tour. Montluçon, où il a décroché un CAP de mécanicien en cycle et motocycle, a signé aujourd'hui son 9e succès en 4 mois seulement pour conforter sa place de numéro 1 mondial. Celui qui se contentait encore il y a 2 ans de place d'honneur survole les débats grâce à son équipe, la surpuissante formation belge De Koninck Quickstep, et surtout grâce à sa maturité. Il a tiré de ses échecs au Tour, aux Jeux Olympiques, l'expérience qui lui permet aujourd'hui de transformer en victoire la plupart de ses tentatives. Le vainqueur de 2 étapes du dernier Tour de France et maillot à pois sera dimanche le grand favori d'un autre monument, Liège-Bastogne-Liège.
Merci Fabrice Rigobert. Enfin, Dick Rivers a rejoint l'autre rive. Le chanteur à la célèbre Banane est mort ce matin. Il souffrait d'un cancer. Il était avec Johnny Hallyday et Eddie Mitchell, l'un de ceux qui avaient popularisé le rock'n'roll en France. Il avait d'ailleurs emprunté son nom de scène à un personnage d'Elvis. Avant de fonder le groupe Les Chats Sauvages et de connaître le succès dès le début des années 60 avec ce tube. Twist à Saint-Tropez en 1961, suivront 35 albums, certains écrits avec de très grands noms comme Gérard Manset ou Benjamin Biolay. Comme le rappelle Mishka Assayas, producteur ici à France Inter de l'émission Very Good Trip et auteur de l'excellent Dictionnaire du Rock.
C'est quelqu'un qui a travaillé avec les meilleurs musiciens de sa génération, mais dans plein de styles différents. C'est Martial Solal qui accompagnait Dick Rivers dans Twist à Saint-Tropez. Il a travaillé avec des musiciens anglais, Mick Jones, le guitariste qui a joué ensuite avec Johnny Hallyday. Il a travaillé avec Bachung. C'est extraordinaire de voir quel goût il avait. Il a été un des premiers Français à adapter les Beatles. Également Buddy Holly. Et en fait, c'était pas que le rock'n'roll au sens strict du terme, c'était le blues, le folk, la country, enfin, il connaissait ça comme sa poche.
Mishka Assayas avec Jacqueline Petrov. Dick Rivers disparaît le jour de ses 74 ans. Et pour en savoir plus sur ses collaborations prestigieuses du crooner, rendez-vous sur franceinter.fr avec l'ami Julien Baldacchino, Pierre Veil.
Dick Rivers, oui, grâce à lui j'ai découvert le rock'n'roll.
Ah,
j'avais acheté dans les années 60 un 45 tours, est-ce que tu le sais? C'était formidable, Dick Rivers. Et après j'ai découvert la version originale avec Ray Charles, What I Say.
Vous allez pouvoir écouter tout ça.
Absolument, c'était le journal de Sébastien Paour, La Météo.
La météo avec Gautier, le fabricant français de mobilier contemporain qui met de la vie dans les espaces, salons, séjours et les chambres pour petits et grands.
Élodie Calac de Météo France est avec nous. Élodie, encore très agité le temps ce soir.
Ah oui, c'est rock'n'roll, hein. Des orages forts sur le nord-est. Attention au vent parfois violent sur Auvergne-Rhône-Alpes, surtout sur les départements en vigilance orange, jusqu'à 110 km à l'heure en plaine, jusqu'à demain après-midi, 130 sur les hauteurs. Et puis par ailleurs, une nouvelle dégradation à bord de l'ouest du pays ce soir.
Et elle nous concernera demain.
On la retrouvera demain matin en effet des Pyrénées aux frontières du Nord, puis de la vallée du Rhône et du Massif central vers le Grand Est avec des pluies parfois orageuses, soutenues sur le Massif central, l'Auvergne, la vallée du Rhône et la Bourgogne. Sur les Cévennes, on attend des quantités de pluies conséquentes. L'après-midi, il neigera sur l'Auvergne vers 1000 mètres. Ce temps gagnera ensuite les frontières de l'Est en soirée, mais en attendant, la matinée sera lumineuse de l'Alsace jusqu'aux Alpes. Plus à l'ouest, un ciel d'averse s'installera, parfois avec un orage du grésil. Pour les températures, un peu plus frais, 6 à 13 degrés le matin, 13 à 20 l'après-midi et encore 23 pour l'Alsace, 23 aussi du côté du Roussillon.
Élodie Calac de Météo France, merci.